Religions du monde, Geneviève Delru.
Canada se better mujhe France isliye laga ke yahan se mujhe ek naam mila.
Parce que la France est le pays qui m'a donné une identité, un nom.
Asia Bibi aur naam dene wali Isabelle.
Le nom d'Asia Bibi, c'est l'œuvre d'Isabelle, d'Anne Isabelle.
Ben c'est vrai que la France lui a donné beaucoup d'espoir à travers moi, et donc il est logique qu'elle ait confiance en la France, parce que après ce qu'elle a vécu, elle est craintive.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Asia Bibi, aux côtés d'Anne-Isabelle Tollet la semaine dernière à Paris, au cours de laquelle elle a adressé sa demande d'asile politique au président Emmanuel Macron à l'Élysée. C'est l'image de ces deux femmes à tout jamais liées que nous retiendrons pour illustrer dans Religions du Monde cette journée internationale des droits des femmes. Asia Bibi, Le Monde a découvert, grâce à la journaliste française en poste alors à Islamabad, le calvaire de cette chrétienne pakistanaise condamnée à la pendaison pour blasphème en 2010 et définitivement acquittée en janvier 2019. Une histoire commencée dans un champ en juin 2009 au cours d'une dispute avec des paysannes de confession musulmane à propos d'un verre d'eau qu'Asia Bibi aurait souillé en se désaltérant dans un puits réservé aux musulmans. Cette mère de famille, âgée aujourd'hui de 54 ans, aura passé plus de 9 années en prison. À sa libération, elle est partie avec son mari et ses deux filles de 20 et 21 ans au Canada, et aujourd'hui, c'est donc en France, la patrie d'Anne-Isabelle Tollet, où elle veut vivre.
L'un de mes souhaits les plus chers, en effet, c'est de travailler main dans la main avec Anne-Isabelle.
Pour vous, Anne-Isabelle, c'est votre sœur ? Votre grande sœur, votre petite sœur?
Bilkul, main behan ka darja deti inko aur main respect karti hu dil se ki ye meri behan hi hai.
C'est comme une sœur pour moi et je la respecte du fond de mon cœur. C'est ma sœur.
Que représente pour vous la France, à part Anne-Isabelle Tollet? Quelle image avez-vous de la France, Asia Bibi?
France ke bare mein yahi main chahti hai ke sabse pehle to mujhe France ne ek naam diya, ek aisi shakhsiyat ko paida kiya jinhone mujhe puri duniya mein roshan kiya aur mere naam ko lekar aage gayi aur bahut acha laga mujhe.
La France est, comme je vous l'ai dit, cette patrie qui m'a donné un nom, une identité, et c'est également en France qu'a vu le jour une personnalité, une femme comme Anne-Isabelle Tollet, qui a porté mon message dans le monde entier.
Vous voulez dire que si la France, une journaliste comme Isabelle Tollet, ça veut dire, en allant plus loin, que la France peut créer en quelque sorte, pour vous, des conditions de liberté, notamment religieuse ?
Bilkul, mazhabi azadi to milni chahiye sabko, aur honi bhi chahiye, aur lagta bhi hai.
En effet, je pense qu'il est absolument nécessaire pour chaque être humain de bénéficier d'une liberté religieuse. Et c'est exactement l'impression que j'ai eue en France.
Les questions de sécurité jouent dans votre vie actuelle. Est-ce que vous ne vous sentez pas moins en sécurité en France, qui est plus proche du Pakistan, que le Canada ?
Bilkul, security ke hawal se, main ye kahungi ke issues to hain mujhe security ke, ke kisi bhi waqt kuch bhi ho sakta hai.
Oui, je pense que bénéficier d'un dispositif de sécurité est une nécessité, parce que eh bien, tout peut arriver n'importe quand.
Pour vos enfants, vous préférez la France aussi ?
Alors, oui, c'est mieux parce qu'il fait moins froid.
Et pour votre mari ?
Oui, parce qu'il prend de l'âge et je pense qu'il sera mieux en France.
Sortie donc des couloirs de la mort en janvier 2019, Asia Bibi nous dit comment elle regarde ses 9 années de détention.
Moi, le sens que je donne à ma détention, c'est premièrement que, eh bien, il faut rester très solide, très ferme dans sa foi en Jésus, puisque c'est Jésus qui m'a, grâce à Jésus, que je suis libre. Et par ailleurs, œuvrer pour la libération de toutes ces personnes qui sont injustement détenues.
Oui, dans votre livre, vous parlez effectivement, pendant votre détention, de femmes qui, comme vous, étaient détenues. Notamment une, elle était détenue parce qu'elle avait été violée. Elle avait porté plainte et cette plainte s'était retournée contre elle. Elle avait écopé de 5 ans de prison et elle est morte empoisonnée en prison. Pour vous, cette femme, ces autres femmes que vous avez rencontrées sont les symboles, en quelque sorte, de, à la fois de la loi sur le blasphème, comme vous, mais aussi de la condition féminine au Pakistan et de la condition, bien sûr, des minorités religieuses, comme vous, chrétienne.
Minority or jo baki khawateen hain jurm ka nishana bani.
En effet, ces femmes sont le symbole des persécutions contre les minorités et de toutes ces femmes qui ont subi des crimes, qui ont beaucoup souffert.
Dans votre histoire, il y a la question de la loi du blasphème, il y a la question aussi de la condition féminine. Les deux interfèrent.
Bilkul aisa hi hai jaise inko lag raha hai, baat unki bhi theek hai.
Ma problématique, en effet, enfin, englobe ces deux problématiques. Comme vous l'avez très très bien dit, je pense que c'est très juste, oui.
Dans votre histoire, Asia Bibi, il y a de la solidarité féminine, même en prison. Il y a aussi, et c'est assez effrayant, quand vous décrivez la réaction de ces femmes de votre village, donc ce sont en l'occurrence des femmes majoritairement musulmanes, hein, qui vous disent « à mort ». Oui, elles sont complètement d'accord avec la sentence qui a été prise par l'imam local. Hein. Elles crient « à mort ». Là, il n'y a aucune solidarité féminine.
Oui. क्योंकि नफरत मुझे नजर आई उनमें लेकिन फिर भी मैंने उनको माफ किया तो माफ करने वाला तो वो खुदा है हम तो इंसान वसीला हैं तो मैंने उनको दिल से माफ किया लेकिन मैं ये चाहती हूं कि इस्लाम में तब्दीली आनी चाहिए ताकि कोई और जुर्म का निशाना ना बने.
Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que oui, en effet, j'ai pu lire la haine dans leurs yeux et dans leurs attitudes. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, j'ai pu pardonner, parce que c'est Dieu qui pardonne. L'être humain n'est que l'instrument de ce pardon. Et j'insiste aussi sur le fait que peut-être qu'il faudrait quelques transformations, quelques réformes au sein de l'islam pour que plus personne, et surtout plus les femmes, n'aient à souffrir de ce genre d'accusations.
Oui, parce que bien sûr, on sait très bien que les musulmans sont aussi victimes hein, de la loi sur le blasphème. Le pardon, comment fait-on pour pardonner quand on a été enchaîné autour du cou, battu, tapé, qu'on a été maltraité pendant tant d'années? Comment fait-on?
Mera bahut bada dil hai, main mujhe khuda ne ye mauka diya duniya ke samne ke kalam kehta hai ke agar आप किसी को माफ़ करते हो ना तो वो खुदा भी आपको माफ़ करता है तो मेरा यही जज्बा है यही दिल है और मैं यही दिल रखती
हूँ. Moi j'ai eu la chance d'avoir un cœur très ouvert et je me souviens également de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est que si on pardonne à quelqu'un, eh bien Dieu pardonne également vos péchés et ce sont vraiment ces sentiments-là qui m'animent et qui habitent mon cœur.
Deux personnes majeures sont mortes pour vous avoir défendu, mais aussi plus largement pour libérer en quelque sorte le Pakistan de cette loi sur le blasphème, de ces dérives de cette loi sur le blasphème. Shahbaz Bhatti, hein, bien sûr, le ministre des minorités, ministre chrétien des minorités, et puis Salman Taseer, le gouverneur du Punjab, dont le fils après d'ailleurs sera lui aussi, enfin sera emprisonné et subira des tortures. Pour vous, ce sont, alors en tant que chrétienne, vous les voyez comme des martyrs, comme des héros. Comment les voyez-vous tous les deux? Et puis il y en a d'autres, bien sûr, mais on connaît d'abord cela. Salman Taseer, donc musulman, bien sûr.
Bilkul wo shaheed hain aur mujhe dili dukh hai unka ki unko mara gaya, lekin main nahi samajhti ki wo mare hain. Wo aaj bhi Khuda ki badshahi mein zinda hain.
Alors, évidemment, pour moi, ce sont des personnes qui sont des martyrs, mais en même temps. Enfin, j'en aurais une peine inouïe. Et en même temps, pour moi, ces personnes ne sont pas décédées. Elles sont encore vivantes, bien là, auprès de Dieu en tout cas.
Est-ce que ce sont ces personnes-là et celles qui succéderont à ces deux héros qui, pour vous, pourront libérer, en quelque sorte, le Pakistan?
Oui, bilkul. Mujhe lag raha hai ki jo unke nakshe kadam pe chal rahe hain, wo zarur azad karenge Pakistan ko.
J'ai la conviction que toutes ces personnes qui marchent sur leurs pas, ce sont ces personnes-là qui vont un jour libérer le Pakistan.
Assez Bibi, je vous remercie.
Merci. Shukriya. Aap sabka.
Merci à vous tous. Merci.
Asia Bibi, traduite de l'ourdou en français par Sakina Eder. Enfin libre, aux éditions du Rocher, est le troisième livre d'Anne-Isabelle Tollet sur Asia Bibi. Ancien grand reporter au Pakistan et aujourd'hui rédactrice en chef à CNews, Anne-Isabelle Tollet s'est battue dès 2010 pour alerter l'opinion sur le cas Asia Bibi. Ce troisième livre, coécrit cette fois avec elle, raconte l'enfer de la prison, les mauvais traitements, les humiliations, mais témoigne aussi sur sa résistance mentale, physique et spirituelle. Sur la demande d'asile politique d'Asia Bibi et de sa famille à la France, Anne-Isabelle Tollet s'explique.
C'est vrai que la France lui a donné beaucoup d'espoir à travers moi et donc il est logique qu'elle ait confiance en la France parce que après ce qu'elle a vécu, elle est craintive et on peut le comprendre. Et c'est vrai que se rapprocher de moi et donc en France, eh bien, elle se sentira plus en sécurité, mieux encadrée, parce que elle s'est rendue compte à travers ses 10 années passées en prison qu'il était difficile d'octroyer sa confiance en qui que ce soit. Et j'ai pu lui démontrer à travers ces 10 années de combat que j'ai menées pour elle qu'elle pouvait me faire intégralement confiance. Et c'est pourquoi elle se sentirait plus à l'aise, plus heureuse, sans doute dans un pays comme la France, plutôt que ailleurs dans le monde. D'ailleurs, parce que je crois qu'elle a compris que depuis qu'elle est arrivée en France, qu'elle recevait un accueil absolument chaleureux et formidable de la part de toutes les personnes qu'elle rencontre, ce qui n'est pas le cas au Canada, parce que moi je suis allée au Canada, les voir vivre, et ils sont très isolés au Canada, ils ne parlent à personne, et ils ne... évidemment pour des raisons de sécurité, personne ne sait qui ils sont, mais en même temps ils ne rencontrent personne, et là ils prennent conscience, enfin quand je dis ils, c'est Asia, son mari et ses 2 filles qui sont aussi avec elle en France, réalisent que il y a beaucoup plus de potentiel et beaucoup plus de chaleur en tout cas qui se dégage de notre pays.
Une affection
particulière parce que à travers moi, la France a été le premier pays à défendre Asia Bibi et à se préoccuper de son sort. Donc oui, elle veut rendre à la France ce qu'elle lui a donné.
Alors, vous êtes allée au Canada tout à fait de façon incognito, dans le plus grand secret, la rencontrer dans un lieu évidemment que personne n'est censé connaître. Quand vous avez toqué à sa porte, parce que c'est ce que vous racontez hein, dans le livre Enfin Libre, aux éditions du Rocher, quand vous avez toqué à sa porte et que vous vous êtes retrouvés l'une en face de l'autre, les larmes qui coulent.
Alors pas les larmes, parce que je suis assez pudique et les larmes ne coulent pas facilement, mais une grande émotion intérieure. J'étais un peu impressionnée également, parce que j'avais peur de l'effrayer aussi. Et je ne savais pas exactement ce qu'elle savait de moi. Et comme il n'avait pas l'habitude de recevoir des visites, parce que tout le monde, ignorant qu'elle était présente là, et je ne m'étais pas annoncée non plus, eh bien, ne l'ayant jamais rencontrée auparavant, et après ces 10 années passées en prison, je redoutais peut-être une réaction. Et j'ai immédiatement été soulagée quand son mari lui a dit que c'était Anne-Isabelle Tollet, la journaliste qui t'a défendue. Elle s'est immédiatement jetée dans mes bras et moi j'étais à la fois heureuse, émue et surtout tellement satisfaite de voir cette petite bonne femme intelligente, pétillante, belle comme un cœur, en train de préparer la cuisine pour ses enfants parce qu'elle était en vie, tout simplement.
Elle était en vie et quand on lit effectivement, ce qu'elle vous a raconté, je crois, pendant 48 heures, c'est cela, de sa condition carcérale, on se dit, comment a-t-elle pu rester en vie? Puisque le début de son récit, elle est enchaînée autour du cou, il y a une chaîne qui la retient, il y a des rats, enfin, on se dit, elle ne peut pas tenir 10 ans, comment a-t-elle fait?
Elle le dit elle-même, 2 choses l'ont fait tenir, à la fois sa foi, elle est très croyante, et aussi parce qu'on lui faisait part des agitations dans la communauté internationale et de tout ce que je mettais en œuvre. Enfin, en tout cas, je m'attachais à ce que son mari lui dise à chaque fois qu'il lui rendait visite en prison. Alors, il ne faut pas qu'il perde espoir parce que là, il y a tel pays qui s'est mobilisé, il y a telle personne importante qui pense à toi. Et puis, il y a des relais d'une chaîne humaine à travers le monde qui te soutient. Et donc, il ne faut pas lâcher prise, il ne faut pas perdre espoir. Et elle le dit aujourd'hui, elle me l'a dit qu'effectivement, ça l'avait énormément aidé à tenir, parce que se sentir épaulé, aimé par toute une communauté internationale, eh bien, ça lui a donné la force de résister à ces conditions extrêmes.
À quel moment vous avez commencé exactement à prendre fait et cause pour Asia Bibi, Anne-Isabelle Tollet?
Juste après, en octobre 2010, juste après l'intervention du pape Benoît XVI, dans les jours qui ont suivi, après avoir moi couvert cette actualité comme correspondante pour France 24, eh bien le ministre des Minorités, Shabazz Bhatti, m'a fait rencontrer la famille d'Asia Bibi. Et donc, dès lors, son mari a pu lui dire « Tiens, on a rencontré une journaliste française qui est très amie avec le ministre, en qui on peut faire confiance. » Et elle a dit qu'elle allait nous aider, donc... c'est à ce moment-là, donc très vite, dès 2010, qu'Asia Bibi a eu connaissance de ma présence d'abord au Pakistan. Et puis après, quand j'ai dû quitter le Pakistan, je lui ai bien fait savoir que ce n'est pas parce que je quittais le Pakistan que je l'abandonnais pour autant, et que depuis la France, j'allais continuer à mener le combat.
Il n'était plus possible de vivre sans que Asia Bibi, un jour, puisse revoir la liberté.
J'ai eu beaucoup de moments de doute parce que c'était un peu David contre Goliath, faire plier le Pakistan. Et donc, à travers le Pakistan, c'est faire plier les extrémistes influents au Pakistan. Je dois dire que la question du blasphème étant aussi ce qu'elle est au Pakistan, c'était pas gagné d'avance. Et c'est même miraculeux, c'est même historique le fait qu'elle soit libre aujourd'hui et qu'elle soit innocentée aussi par la justice pakistanaise. Mais quand j'ai quitté le Pakistan et que j'ai dit à Asia, à travers sa famille, je ne vous abandonnerai pas, c'est parce que moi, je savais qu'il n'y avait plus que moi qui pouvais faire entendre la voix d'Asia Bibi à travers le monde et donc exercer une pression de la communauté internationale sur le Pakistan pour qu'elle puisse en sortir. Si je m'étais contentée de me retourner, de fermer les yeux sur cette histoire, je pense que l'issue ne serait pas la même surtout. Mais moi, avec ma conscience, j'aurais eu un problème également parce que quand...
Est-ce que vous saviez ?
Je savais, et je savais surtout qu'il n'y avait que moi, puisque tous ces défenseurs précédents avaient été assassinés. Et depuis le Pakistan, plus personne ne pouvait s'exprimer au nom d'Asia Bibi. Et il n'y avait que moi, finalement, qui connaissais cette histoire. Donc j'avais cette lourde responsabilité. Et je me suis longtemps préparée aussi au fait qu'elle puisse aussi ne jamais en réchapper. Et mes enfants, ma petite fille me disait « Mais maman, tu crois que... » Je dis « Mais tu sais, si jamais elle s'en sort pas, eh bien, on aura essayé. Et puis au moins, ça aura fait connaître son histoire et ça va aider d'autres Pakistanais qui sont dans la même difficulté qu'elle. »
Comment traduisez-vous la décision, cette décision de la Cour suprême ? Pour vous, elle est historique, mais est-ce qu'elle est aussi... est-ce que c'est un signal ? Est-ce que c'est le signal que ça peut changer au Pakistan ?
C'est absolument historique et un signal parce que la Cour suprême est, comme le nom l'indique, vraiment l'autorité suprême judiciaire au Pakistan. Et donc le fait qu'elle ait pris la peine d'étudier le cas d'Asia Bibi et d'innocenter Asia Bibi, ce qui a été infiniment courageux par la part des juges qui étaient extrêmement menacés au moment du procès, eh bien, ça a ouvert la porte et la voie aux autres juridictions pour pouvoir innocenter des personnes accusées de blasphème. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, une quarantaine de chrétiens accusés d'avoir blasphémé et emprisonnés, eh bien, ont été innocentés par différentes cours de justice à travers le Pakistan, parce qu'ils se sont rendus compte, encore une fois, que cette loi avait été utilisée, mais que c'était juste de la dénonciation, des affabulations, et qu'il n'y avait pas de blasphème en l'espèce. Mais pour avoir ce courage d'innocenter des personnes accusées de blasphème, eh bien, il a fallu que la Cour suprême, justement, montre l'exemple. Et je pense que on peut parler d'une jurisprudence à Asia Bibi au Pakistan. Oui.
On pourrait intituler certains de vos chapitres « Pourquoi tant de haine ?» On est frappé quand même de la réaction, j'en parlais avec Asia Bibi, hein, des femmes de son village quand elles apprennent sa condamnation à la pendaison. On est frappé aussi lors du second jugement, où elle est également condamnée à la pendaison, de ces foules dans la rue qui affichent le portrait d'Asia Bibi.
Avec une corde au cou.
Ah, oui, avec une corde au cou, effectivement, et qui manifestement sont joyeux face à cette perspective. Pourquoi tant de haine ?
C'est la peur, je pense, qui anime. C'est la peur du fanatisme, des fanatiques, des partis religieux qui sont haineux, mais pas seulement. Ils tuent, ils commettent des attentats. Et si tout le monde veut avoir la paix au Pakistan, ils n'ont pas d'autre choix, finalement, que de faire un peu de zèle, ou du moins aller dans leur sens pour ne pas avoir eux-mêmes des problèmes. Et donc ce sentiment de terreur instauré par ces fanatiques religieux, eh bien, est contagieux et fait en sorte que, justement, ces mouvements de foule, mais je dois préciser quand même que les partis religieux extrémistes et les foules dont vous parlez au Pakistan représentent 5 millions de Pakistanais sur les 207 millions d'habitants. Et on voit ça particulièrement dans une région qui est le Pendjab, mais vous ne verrez jamais ça dans les grandes villes, etc., où là, c'est un tout autre Pakistan, je dirais, avec des Pakistanais très ouverts sur les autres religions, sur la liberté religieuse, et qui ne sont pas habités justement par cette haine.
À propos de cette loi sur le blasphème, dans votre livre, Anne-Isabelle Tollet, on voit finalement, et Assia Bibi le dit elle-même, que cette loi, elle ne changera pas, elle restera. Et on parle uniquement d'ailleurs des dérives de cette loi. Est-ce que vous pensez que cette loi, effectivement, est appelée à demeurer ? Que c'est comme ça ? C'est depuis le général Ziaul-Haq, c'est ça, qu'elle a été instaurée. Vous n'êtes pas du tout positive sur l'issue possible un jour de cette suppression de cette loi qui fait beaucoup de mal aussi chez les musulmans, bon, davantage pour les minorités religieuses, mais aussi les musulmans sont victimes.
Je dirais même surtout les musulmans, parce que être accusé d'un blasphème quand on est musulman, c'est encore pire, je dirais, pour les musulmans que lorsqu'on est chrétien, parce que là, on peut se dire, les chrétiens, finalement, ce n'est pas leur religion, donc s'ils la dénigrent, c'est normal, je dirais. Moi, je pense que cette loi, elle peut évoluer. Elle ne disparaîtra pas de la constitution pakistanaise, mais en revanche, on pourrait retirer la condamnation à mort qui a été justement rajoutée sur le tard. Mais ça va prendre du temps. Et je rappelle aussi que on est un peu choqué de voir qu'il y a une loi du blasphème au Pakistan, mais quand on regarde à travers le monde, il y a énormément de pays, y compris en Europe, qui ont une loi du blasphème. Et donc le problème de cette loi du blasphème au Pakistan, c'est d'abord qu'elle tue, puisque c'est la peine capitale qui peut être prononcée. Et l'autre problème, c'est qu'elle est instrumentalisée.
Qu'elle emprisonne, donc.
Et qu'elle emprisonne aussi à vie des tas d'innocents. Mais je pense que là, ce serait complètement utopique, et presque, je dirais que j'ai mal fait mon enquête, si je pense que cette loi du blasphème disparaîtra de la constitution pakistanaise. En revanche, l'élan qu'Asia Bibi envoie à travers son message, c'est que peut-être qu'il pourrait revenir sur cette condamnation à mort qui a été, comme vous l'avez dit, instaurée par le général Ziaul-Haq dans les années 80, qui, lui, voulait radicaliser la société pakistanaise. Mais aujourd'hui, on voit que la société pakistanaise veut au contraire s'ouvrir à travers la libération d'Asia Bibi. Ça montre un élan d'ouverture, et pas du tout de se plonger dans l'obscurantisme, mais on va vers la lumière. Et donc, je pense qu'il n'est pas du tout improbable d'imaginer que la peine de mort puisse être retirée.
Vous pensez que Asia Bibi a rendu service au Pakistan ?
Je suis convaincue qu'Asia Bibi a rendu un énorme service au Pakistan, parce que moi qui ai vécu et qui ai beaucoup d'amis là-bas, tous me disent, mais vous n'imaginez pas comme cette loi nous fait peur, parce qu'à tout moment, à chaque instant, pour X raisons, on peut se retrouver en prison et voire condamné à mort pour un blasphème qu'on n'a pas commis.
Dernière question, Anne-Isabelle Tollet. Asia Bibi qui demande l'asile à la France, Asia Bibi qui vous voit comme une sœur. Pour vous, c'est une responsabilité quand même, une grande responsabilité aussi, si elle reste en France, si la France accepte sa venue.
C'est vrai, mais en même temps, je sais que c'est certes une responsabilité, mais en même temps, je pense que c'est dans l'ordre des choses, finalement, puisque c'est la France qui est mon pays et qui a été le premier à alerter sur son sort. Et donc, elle ouvre ce deuxième chapitre de sa vie en France, et dans l'ordre des choses. Et je sais que la France est le meilleur pays d'accueil au monde qu'on puisse trouver, et donc elle sera parfaitement prise en charge. Et puis moi, je pourrais justement me reposer sur la France en étant assurée qu'elle sera bien dans ce pays. Et donc finalement, paradoxalement, certes j'aurai cette responsabilité, mais je serai beaucoup moins impliquée dans cette vie en France que je ne le suis, ne serait-ce qu'au Canada, où à distance je dois aussi gérer des problèmes qu'elle rencontre. Mais là, on est à plus de 6000 km, donc c'est compliqué. Mais je suis très touchée qu'elle veuille venir en France, et très heureuse pour elle, parce que je sais qu'elle sera bien ici avec ses deux filles et son mari.
Anne-Isabelle Tollet qui signe avec Assabibi, enfin libre, aux éditions du Rocher. Et puis, je vous conseille le dossier complet de l'hebdomadaire La Vie sur Assabibi qui donne un éclairage sur les hommes au Pakistan qui ont concouru à la sauver, à commencer par son avocat de confession musulmane, Saïf Oul Malok, sachant que sa vie serait alors menacée.
Religion du monde.
À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Religion du Monde se penche avec Sinatou Saka sur les podcasts produits par des femmes actives au sein de leur religion, des podcasts réalisés en dehors des grandes radios qui apportent un ton nouveau dans le paysage sonore. Sinatou Saka, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Vous êtes journaliste à RFI, co-autrice avec Alice Perrol-Vial du podcast Dieu.e, un podcast francophone sur les féminismes religieux. Quelle définition donner du podcast? Parce qu'il est souvent compris comme une écoute en différé, comme une sorte de session de rattrapage.
Alors oui, à la base, les podcasts, c'est souvent des émissions qui viennent de passer à l'antenne en direct et qu'on peut réécouter sur Internet, comme par exemple notre émission Religion du Monde. Mais ces dernières années, un podcast, c'est aussi et de plus en plus une production originale, écrite et diffusée en priorité sur Internet sans passage préalable à la radio.
Est-ce qu'il y a un style, une façon de parler, un ton, une durée particulière?
Oui, alors les podcasts offrent effectivement une grande liberté de parole, de ton, mais aussi de temps. On a des podcasts d'une heure ou plus et ils permettent aussi aux femmes croyantes d'asseoir une certaine légitimité dans le milieu du féminisme. Et puis le format podcast, qui reste quand même un format de niche, est une sorte de militantisme beaucoup plus confortable car les autrices sont moins l'objet de critiques virulentes sur les réseaux sociaux. Et au-delà même de l'expérience dans le podcast, des femmes apporte également une analyse beaucoup plus objective de leurs pratiques religieuses.
Alors, Dieu.e, quelques mots sur ce podcast, Sidatou.
Alors, Dieu.e, c'est effectivement un podcast donc lancé en septembre 2019 avec Alice Perrol-Vial. Et l'objectif était très simplement de donner la parole à des femmes croyantes et engagées sur la question de la place des femmes dans leur religion, mais aussi dans la société.
Alors, Sidatou, on va écouter un extrait du premier podcast, donc Dieu.e. On va entendre la voix d'une femme rabbin bien connue, du courant libéral. Elle s'appelle Delphine Horviller. Et puis, on entendra ensuite Tali Fitoussi, qui est une jeune femme juive orthodoxe.
Ce qui est troublant dans nos traditions religieuses, c'est que les leaders de nos traditions parlent tout le temps des femmes. Ils parlent tout le temps des femmes, mais ils parlent jamais avec les femmes.
J'ai eu une petite altercation un jour où j'ai demandé un Sefer Torah, donc un rouleau de la Torah, en disant c'était la fête du rouleau de la Torah. En fait, on fêtait le fait qu'on ait fini de lire tout l'ensemble du Chumash, donc la première partie du canon biblique du Tanakh. Et donc tous les ans, pendant cette fête, y a beaucoup de joie, on danse, on chante. Concrètement, les hommes dansent, les hommes chantent avec le Sefer Torah, et les femmes, généralement en haut, en tout cas c'était le cas dans ma synagogue, regardent les hommes, tapent des mains et jettent des bonbons. On n'est pas dans la fête, on est dans le regard de la fête, extérieur à cette fête.
Dieu avec un E, c'est le premier podcast francophone sur les féminismes religieux, habité par les contributions de théologiennes, d'activistes ou militantes, de responsables de communautés ou simplement de croyantes. Bienvenue dans la maison de Dieu.
Alors, Sinatou, Dieu.e, on est très clairement là dans le féminisme religieux. Mais quelle définition donner à ce terme?
Comme l'illustre très bien cet extrait qu'on vient d'écouter, oui. Le féminisme religieux est un courant du féminisme qui interroge les traditions, les pratiques, la lecture même des textes religieux dans une perspective féministe. Ça passe par exemple par une réinterprétation de la place des femmes dans les textes religieux et aussi par une réinterprétation de leur apport dans l'émergence des religions, par exemple dans l'islam, la place de Fatima, la femme du prophète, qui était une riche commerçante et qui a une véritable influence auprès de ce dernier. En fait, l'idée du féminisme religieux, c'est de démasculiniser le regard sur les textes et les pratiques et aussi de tordre un peu le cou à l'imaginaire qui voudrait que Dieu soit forcément un homme barbu sur son trône. Et enfin, je pense que le féminisme religieux, c'est aussi dépassionner le sujet du voile, qui est un véritable débat entre féministes. Il y a celles celles qui voient un instrument de soumission et les autres, les féministes musulmanes, qui estiment que le voile relève de leur choix de femme.
Alors Sinatou, vous relevez le nombre de podcasts féministes sur les plateformes d'écoute, un nombre tout à fait en augmentation. Pour ce qui est des podcasts féministes religieux, vous notez qu'ils sont surtout apparus, alors c'est intéressant effectivement, après la diffusion d'un documentaire sur Arte sur des viols subis par des religieuses dans des communautés. Et ce documentaire a été diffusé il y a quasiment un an, c'était le 5 mars 2019.
Oui, effectivement, ce documentaire n'a laissé personne indifférent. On est dans un moment où déjà les femmes croyantes ont envie de prendre la parole. Et puis, il y a aussi le phénomène MeToo, il y a les procès contre des prêtres pédophiles qui ont libéré d'une façon générale la parole et les femmes ont compris que la société est peut-être prête à les écouter. Et pour rappel, le documentaire Geneviève a été vu par près d'1 million de téléspectateurs en France.
On va écouter un deuxième podcast féministe religieux, puisque c'est le nom que vous leur donnez. Là, il s'agit d'un podcast avec une jeune femme musulmane.
Oui, ce podcast s'appelle « Omama Conversation ». Il est présenté par Dania, qui est une consultante en stratégie digitale. Et il donne la parole aux femmes musulmanes, celles qui précisément veulent porter le voile. C'est le cas de Nora qu'on va entendre, une Algérienne qui vit en France et qui raconte son expérience de femme voilée.
J'ai travaillé en tant qu'assistante aux ressources humaines dans des grandes entreprises françaises. J'ai arrêté le 17 avril 2009, ouais. C'est précis, parce que j'avais envie de porter le voile. En fait, j'étais en CDD et ça se passait très bien. J'étais très contente de mon travail et ils m'avaient proposé de rester, de m'offrir un CDI même. Et j'ai refusé parce qu'en fait, j'avais une très grande envie de porter le voile. Et j'avais vraiment envie de le porter. Du coup, ben, je me suis dit c'est le moment. Voilà, je renouvelle pas mon contrat. Alors ils n'avaient pas trop compris. Je leur ai pas dit. Hein. J'ai pas donné la raison. En fait, j'ai pas tenté parce qu'à l'époque, donc c'était en 2009, et les dames qui venaient faire le ménage dans cette société, même elles-mêmes devaient l'enlever. Quoi, je les voyais des fois le remettre dehors. Donc je me suis dit mais enfin. C'est mort, c'est même pas. Ouais, c'est même pas la peine de tenter. Bon, je regrette un petit peu quand même parce que je me dis que peut-être que il y en avait pas du tout dans la boîte où je travaillais. Du coup, voilà, j'avais entre 30 et 31 ans. J'étais célibataire, je gagnais bien ma vie, j'avais tout. Enfin, je veux dire, j'étais indépendante, mais j'avais ce besoin. Il me manquait quelque chose en fait dans ma vie. Il me manquait vraiment quelque chose. Ben, c'était ça en fait. Et subhanallah, ce jour-là, je m'en souviens. J'étais dans le métro, je crois que c'était la ligne 3, il me semble, oui, c'est pour le Valois, c'était la ligne 3. C'était un vendredi, donc, et j'avais fini, donc, c'était mon contrat, et j'avais tellement hâte de rentrer chez moi, et je me suis dit, ça y est, demain, je sors, je porte le voile, quoi.
Vous écoutez Des femmes et un Dieu, le podcast où des femmes chrétiennes parlent de leurs expériences de foi.
Troisième podcast féministe religieux Sinatou avec Mathilde, jeune femme catholique.
Oui, Des femmes et un Dieu, c'est le nom de ce podcast qui visibilise des femmes chrétiennes au profil varié et qui raconte aussi leur rapport avec Dieu, la foi et l'Église.
Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 30 ans. Je vais à la messe et au cathé et à l'aumônerie et au cœur de la paroisse depuis l'enfance. Mon parcours de petite fille, de jeune fille puis de jeune femme engagée dans l'Église a été marquée par de petites contrariétés. L'impossibilité pour les filles de servir la messe dans ma paroisse. L'homélie sur le récit de la création, expliquant que la femme est par nature une aide pour l'homme, parce qu'elle a été tirée d'une côte d'Adam. Ou encore le célébrant qui ne fait appel qu'à des hommes pour donner la communion, alors même que l'assemblée est composée en grande majorité de femmes. Si tout le monde n'a pas directement vécu ces situations, chacun d'entre nous, chrétien ou non, a eu ici ou là l'occasion d'y être confronté. Nous ne nous y sommes pas forcément attardés et nous n'en avons pas forcément explicité le caractère sexiste. Je ne peux sans doute pas grand-chose pour enrayer les abus, mais je peux contribuer, à ma mesure, à faire en sorte de changer cette image des femmes dont je suis aussi victime. J'ai donc décidé de créer un podcast d'entretien avec des femmes, et peut-être aussi à terme, des hommes, pour les interroger sur leur itinéraire de foi, et la façon dont elles perçoivent, ou non, l'Église et leur vie spirituelle au prisme de leur féminité. Et j'espère bien que vous serez là pour les écouter.
Alors Sinatou, à côté des podcasts, j'allais dire amateurs hein, quand même, des médias traditionnels comme le quotidien La Croix se mettent à l'audio et au podcast, et au podcast féministe religieux.
Oui, le journal La Croix a lancé Ainsi soit-elle, donc la première série du podcast La Place des Religions, où des femmes croyantes racontent comment elles vivent leur foi dans notre monde contemporain. On écoute un extrait.
Je m'appelle Malo Tresca. Et je suis journaliste au service religion du quotidien La Croix. Chaque jour, je monte les marches de la rédaction, au deuxième étage du siège de Bayard Presse, rue Barbès, à Montrouge. Au cœur de la rédaction de La Croix, on trouve le service religion. C'est une sorte de niche qui n'existe nulle part ailleurs. Là, des experts sur toutes les confessions s'activent, se frayent un chemin entre les questions d'actu et des convictions plus intimes. Ils éclairent les points de friction entre la foi et la société. Ils organisent des dialogues entre les communautés. Ils essayent de pousser la religion hors de ses chapelles, dans notre monde contemporain. Pourtant, quelque chose manque.
Pour exister, il faut s'imposer, ou en tout cas, il faut prendre la parole. Et c'est pas commun de prendre la parole en tant que femme sur les religions.
Alors entre nous, on se demande, qu'est-ce qui coince ? C'est un peu comme si les croyantes se sentaient moins légitimes à parler de leur foi. Comme si elles doutaient plus souvent de leurs paroles que les hommes. Pourtant, elles sont à l'œuvre. C'est une musulmane qui décide de prier aux côtés des hommes. C'est une catholique sur les ronds-points avec les gilets jaunes. C'est une écologiste qui plante son combat dans l'église. Et ce sont elles que nous allons entendre. Ainsi soit-elle, un podcast à découvrir sur toutes les plateformes de podcast.
Merci Sinatou de nous avoir fait découvrir ces podcasts féministes religieux.
Merci beaucoup Geneviève, à bientôt.
À bientôt. La Syrie vit une catastrophe humanitaire sans précédent. Depuis décembre, l'offensive du régime syrien soutenue par l'aviation russe à Idlib, au nord-ouest du pays, une des dernières poches de résistance de Daesh, a fait 900 000 déplacés. Et la mort d'une trentaine de soldats turcs la semaine dernière risque de rendre la situation encore plus chaotique sur le plan militaire, politique et humanitaire. Monseigneur Golnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient, tirait la semaine dernière à Paris la sonnette d'alarme sur la souffrance du peuple syrien. Si les projecteurs sont braqués sur la poche d'Idlib, il rappelait que c'est toute la Syrie qui est exsangue.
Ce qui se passe à Idlib est tout à fait atroce, parce qu'il y a une population civile importante. Dans une guerre civile, d'ailleurs, c'est parfois difficile de distinguer les civils des combattants, mais c'est vrai que c'est toute la Syrie qui souffre. Et donc, il ne s'agit pas pour nous de rendre négligeables les souffrances d'Idlib, bien sûr, c'est tout à fait atroce, mais je voudrais que nous regardions aussi les souffrances de l'ensemble de la Syrie, et puis de bien reconnaître que dans ce nord de la Syrie, on joue avec des allumettes dans une grange où il y a des bottes de paille. Ça peut éclater à tout moment. Il y a des Russes et des Syriens, il y a des Iraniens, il y a des Français, il y a des Anglais, il y a des Américains, il y a des Turcs. Enfin, tout cela est extrêmement dangereux. Et nous ne voyons pas bien la diplomatie internationale, des organismes internationaux agir. Il ne suffit pas d'appeler au danger que ça représente, donc d'appeler à du recul, etc., de la part des Nations Unies, c'est totalement insuffisant. Les Nations Unies ne peuvent pas simplement faire de temps en temps des communiqués par rapport à ce qui se passe dans cette région. Ça devient dramatique et extrêmement dangereux, aussi bien dans la poche d'Idlib que dans la Mésopotamie syrienne. Et donc il est urgent, je crois, de mettre à plat ces réalités et de trouver des solutions viables et durables pour la population qui n'en peut plus. La population est à bout, la population est à genoux. Il s'agit de sauver la population syrienne, il ne s'agit pas de donner des avantages à tel ou tel camp.
« Vincent Gelot est chargé de projet à l'œuvre d'Orient pour le Liban et la Syrie. Il s'agit d'aider les communautés chrétiennes à soutenir leurs projets dans le domaine éducatif, de la santé et de l'urgence, qui s'adressent à tous sans distinction religieuse. Il se rend tous les deux mois en Syrie et souligne la dégradation de la situation du fait de la guerre, toujours bien sûr, mais aussi de la crise économique et financière libanaise et des sanctions européennes à l'égard de la Syrie.
L'ensemble de la Syrie fait face à une crise sans précédent, notamment une crise économique liée aux sanctions et puis liée aussi à la crise libanaise et la crise bancaire libanaise qui affecte énormément le pays. Lors de ce voyage, j'ai pu voir notamment des familles littéralement mourir de froid parce qu'elles n'arrivaient pas à acheter de quoi se chauffer. En l'espace de 2 mois, les prix de certaines denrées alimentaires ont doublé, des denrées de base comme le sucre ou le lait en poudre pour les enfants. La monnaie syrienne est en train de se dévaluer très dangereusement. Donc c'est une population qui a connu la guerre, 9 ans de guerre, dont un quart est déplacé interne et qui vit aujourd'hui d'énormes souffrances et qui vit aussi parfois dans des maisons qui sont détruites. Non, j'ai jamais vu une situation aussi catastrophique depuis 4 ans.
Vous parlez d'heures de queue pour une bouteille de gaz qu'on n'est même pas sûr d'obtenir au bout de ces heures d'attente.
Oui, tout à fait. Ça fait partie des sanctions dont ces gens subissent. Et c'est principalement la population civile qui fait les frais de ces sanctions. Donc la population syrienne est en souffrance. Je vous l'ai dit, elle a du mal à se chauffer, du mal à se nourrir. Et puis, elle fait face à ses démons. Je pense notamment au trauma de guerre. C'est une population qui a vécu sous les bombes, sous les bombardements, qui a été déplacée, qui a vu parfois des horreurs, parfois qui a pu en commettre aussi. Et donc ces gens doivent vivre avec ce mal-là. Et dans plusieurs villes où les combats ont cessé, comme à Damas, comme à Alep, à Homs, ben les démons de la guerre ressurgissent. Et ces gens aujourd'hui ont du mal à vivre avec ce trauma. Et lors de ce voyage, j'ai noté notamment une hausse très importante des cancers. Des cancers dans les familles qui tuent également.
Vous parlez d'une mort lente.
Oui, c'est une mort à petit feu. C'est une mort à petit feu parce que ces gens les sanctions bloquent un peu l'accès au pays et le Liban était une des seules portes d'entrée et de sortie pour l'aide pour les personnes et donc avec cette crise au Liban le pays est étouffé et on se sent vraiment impuissant face à cette misère. Je tiens à rappeler que selon les chiffres des Nations Unies, il y a 13 millions de personnes qui font face à la crise humanitaire en Syrie, 13 millions, donc c'est sur l'ensemble du pays. Et les besoins en termes d'urgence ne cessent d'augmenter.
Vous, en tant que responsable des projets, donc pour l'œuvre d'Orient, est-ce que vous vous sentez bloqué justement dans votre aide parce que l'argent ne peut pas être acheminé du fait de la crise libanaise? Parce qu'en fait, le Liban, c'était un peu le poumon financier pour les Syriens.
Mais je crois que comme toutes les associations sur place, notamment les associations d'église, il y a eu un moment de surprise. Quand il y a eu la crise, maintenant on a trouvé des moyens parallèles pour continuer d'aider. Heureusement, ces communautés, parce que certains projets étaient sur le point de s'arrêter et de fermer. Mais là où je suis inquiet, c'est pour ces églises, toutes ces évêchés, toutes ces congrégations, tous ces gens aussi qui avaient leur compte bancaire au Liban et dont les comptes sont aujourd'hui gelés. Ces gens ne peuvent plus sortir d'argent, $300 par semaine. Ils n'ont plus accès à leur fonds. Et donc la crise qui est au Liban impacte énormément sur la Syrie, et c'est pour eux que je suis inquiet, parce qu'on n'est qu'au début de la crise, ça fait quelques mois, mais et déjà l'impact est effrayant.
Pour vous, on est déjà dans la crise humanitaire?
On était déjà dans une crise humanitaire, mais là, il y a eu une accélération sans précédent de cette crise, et si la crise libanaise se poursuit, je crains que cette année ne soit pire pour l'ensemble de la population civile syrienne.
L'hiver est particulièrement froid cette année en Syrie, Vincent Gelot.
Ça a été un des pires hivers de ces dernières décennies, selon les Syriens. À Homs, où je me suis rendu, on a eu des températures avoisinant les moins 5, moins 10 degrés.
Dans des maisons non chauffées?
Alors, dans des maisons non chauffées, parce que les gens n'avaient plus les moyens d'acheter du fioul. Par exemple, vous avez un marché noir qui s'est développé où les prix ont augmenté et les gens ne pouvaient plus chauffer leur maison. Donc ça a généré des décès, notamment chez les plus faibles, les plus fragiles, donc les enfants ou les personnes âgées.
Et là, il y a un lien avec les sanctions économiques?
Alors c'est très compliqué, c'est un dossier complexe et technique, mais en tout cas, oui, ça fait partie des choses pour lesquelles il y a une limitation. Le pays est un petit peu bloqué à ce niveau-là, donc il vit avec ce que ses alliés peuvent lui apporter et ce qui transite dans son pays, mais ça ne suffit pas pour l'ensemble de la population.
Ce que l'on apprend par vos visites répétées dans différentes villes libanaises, c'est que, par exemple, on peut mourir de froid à Damas.
Mais il ne faut pas oublier que Damas, c'est le grand réceptacle des déplacés de Syrie. Il y a 25% de la population syrienne qui est déplacée interne. Donc ces gens ont perdu leur maison, n'ont plus rien, vivent aujourd'hui soit dans des locations, soit parfois même dans des décombres, dans des maisons trouées, détruites et tout ça.
Dans des voitures même parfois.
Et parfois même, oui, parfois même dans leur voiture. Donc oui, le froid tue à Damas. Damas, c'est pas le paradis. Alors certes, l'actualité n'en parle plus parce qu'il n'y a plus de bombardements et de combats. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même toute une partie de Damas. Je pense aux zones notamment de la Ghouta, qui sont des zones sinistrées, détruites, et où des gens vivent, et où il n'y a pas de reconstruction notoire. Donc c'est tous ces gens qui ont aussi connu des périodes de bombardements, et pour lesquels l'opinion publique s'est émue, voilà, 2 ans pour la Ghouta et 4 ans à Alep, vivent encore en situation de crise humanitaire. Sauf qu'ils ne reçoivent plus de bombes, entre guillemets, sur la figure.
Mais, donc on ne parle plus d'eux.
Donc on ne parle plus d'eux. Or, l'ensemble aujourd'hui de la population syrienne vit dans une situation de détresse à ce niveau-là.
Côté reconstruction, c'est actuellement au stade zéro.
Alors, il n'y a pas de reconstruction à grande échelle en Syrie. Je ne vois pas des chantiers immenses se mettre en place avec des armées de travailleurs qui se mettent à pied d'œuvre. Il y a des petites reconstructions ça et là. L'œuvre d'Orient y participe notamment. À Homs, on reconstruit des maisons pour des populations déplacées qui souhaitent retourner chez elles. Donc c'est des petites choses qu'on fait en étant certain que les gens restent bien dans ces maisons et ne les revendent pas pour partir, ce qui est aussi un défi. Mais non, il n'y a pas de reconstruction. Ça, c'est lié tout simplement au nœud inédit auquel on fait face, à savoir que les alliés du gouvernement syrien, la Russie et l'Iran n'ont pas forcément les moyens financiers ni même l'envie de reconstruire, et de l'autre, un Occident qui ne veut pas entendre parler de reconstruction.
Tant
que les choses ne bougent pas au niveau politique, donc on a des villes entières qui sont des villes fantômes. Je prendrai l'exemple de la ville de Homs, où les combats ont cessé en 2015, et où on a encore les barricades de 2011 qui sont encore là, où on a des quartiers entiers d'immeubles vides et détruits, où il n'y a pas de reconstruction, et où même l'électricité revient difficilement. Vous voyez, la situation évolue pas assez vite à ce niveau-là.
Tous vos projets, tous les projets de l'œuvre d'Orient, Vincent Gelot, en Syrie, ce sont toujours des projets mixtes, c'est-à-dire qui concernent aussi bien chrétiens, la minorité chrétienne, que les musulmans?
Alors, pas obligatoirement. Nous, l'œuvre d'Orient, on soutient les communautés chrétiennes dans leurs œuvres de charité, dans leur mission, dans leur charisme. C'est à elles de décider qui elles veulent aider, comment elles veulent le faire. Et nous, on est là pour les accompagner. Donc, on a des projets, en effet, qui soutiennent plusieurs communautés. Et on a des projets, je prendrai l'exemple des écoles arméniennes et syriaques catholiques de Hasakeh, par exemple, dans le nord-est syrien, en Mésopotamie syrienne, qui sont des 2 écoles qui accueillent chacune 500 élèves, avec 20% d'élèves chrétiens. Et les autres élèves sont soit des Arabes sunnites ou des Kurdes. Et donc, ces populations chrétiennes qui, malgré l'hémorragie, parce que leur nombre a chuté pendant la guerre, continuent de faire le lien entre ces différentes communautés et continuent d'œuvrer pour la paix et la réconciliation. Et elles sont, je dirais, presque les seules à le faire en Syrie. Et c'est pour ça qu'il faut les encourager et que le chemin, il est rude, il est difficile parce que ces communautés, elles ont aussi le réflexe naturel de se replier vers elles-mêmes. Or, elles continuent de faire ce pont-là. Et je crois qu'il faut les aider, il faut les encourager à faire ce travail-là parce qu'il est essentiel pour les générations futures et pour la paix en Syrie.
Vincent Gelot, chargé de projet à l'œuvre d'Orient pour le Liban et la Syrie. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Sophie Janin vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.